Neuvième jour. Vie de l'homme avec les autres et avec Dieu. Je cite. Soyons à la fois Marthe et Marie. Avec Marthe, faisons en sorte que toute notre activité extérieure se rapporte à Jésus d'abord, et aussi par amour pour lui, à tous ceux qui l'escortent, c'est-à-dire aux pauvres, dont il tient chacun, non seulement pour son disciple, mais pour lui-même. Sachons d'autre part, avec Marie, nous asseoir dans une fervente méditation, l'oreille tendue, pour recueillir toute parole que notre Sauveur va nous dire au creux de l'âme. L'homme en général, et le chrétien en particulier, sait bien que l'équilibre entre les activités du corps et celles de l'esprit est nécessaire à une construction personnelle épanouie. Mais cet équilibre est toujours à rechercher ou à retrouver pour l'homme naturellement tiraillé entre son insatisfaction matérielle et son aspiration spirituelle à s'évader des exigences du quotidien. Thomas More trouve et sauvegarde cet équilibre grâce à sa formation intellectuelle et à sa discipline personnelle de vie. Les années passées dans sa jeunesse auprès des Chartreux de Londres montrent son attirance pour la vie contemplative et marquent toute son existence. Parallèlement, plusieurs années d'études juridiques intensives et rigoureuses disciplinent son goût prononcé, trop prononcé aux yeux de son père John, pour la poésie, le théâtre et les belles-lettres. De la vie quotidienne de More ressort clairement sa volonté de mettre en œuvre la double dimension de l'homme, servir Dieu en écoutant et méditant sa parole et faire fructifier les dons reçus au service de son prochain. Il sait mettre en pratique ce commandement de la Bible rappelé dans le dialogue d'un scribe avec Jésus sur la hiérarchie des commandements de Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même. Pour montrer le fruit de la rencontre de l'homme avec Dieu, Thomas More, dans le dialogue du réconfort, évoque l'exemple de Zachée. Bouleversé par la venue du Christ sous son toit, Zachée en fut si heureux et si touché intérieurement par une grâce spéciale pour le profit de son âme, que sur le champ, mu par l'Esprit de Dieu, il dit « Voici, Seigneur, que je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et en plus de cela, si j'ai en quoi que ce soit trompé quelqu'un, je suis prêt à le dédommager au quadruple. » Chez More, ce souci d'une interaction permanente entre l'écoute de la parole de Dieu et son accomplissement dans la vie se veut en toutes circonstances en adéquation avec le message contenu dans la parabole des talents. Cependant, la rapidité de son ascension professionnelle, si elle lui permet de faire fructifier ses talents par l'exercice de responsabilités grandissantes, n'est pas sans risque. Les sollicitations et les pressions contraires à l'exigence d'un service désintéressé sont en effet proportionnelles au niveau de responsabilité qui lui sont confiées. Savoir dire non est souvent plus difficile que l'inverse. Avocat, juge, trésorier puis chancelier du royaume, Thomas More n'oublie jamais que celui qui veut devenir grand sera serviteur. Sa volonté d'être en adéquation avec ce principe peut être illustrée par l'anecdote suivante. Juste après sa démission de sa charge de chancelier d'Angleterre, More rejoint à l'église son épouse qui assistait à un office, s'approche d'elle à la fin du service, lui fait une révérence et lui dit à l'oreille la phrase prononcée habituellement par un de ses serviteurs : « Madame, mon Seigneur est parti. suggérant ainsi avec son humour habituel qu'il n'est plus seigneur après avoir renoncé volontairement à son poste au sommet de la hiérarchie, à côté du roi. Si dans l'exercice de ses responsabilités, Thomas More agit comme Marthe, il veut aussi vivre comme Marie. En effet, si l'homme n'est pas à l'écoute de la parole de Dieu, comment celui-ci pourrait-il être entendu? Comment alors agir selon sa volonté? Cette écoute implique disponibilité, recul et silence. Pour More, vivre comme Marie s'exprime en particulier par son intense vie de prière, mais aussi par son assiduité discrète à la messe et la pratique fréquente du sacrement de pénitence. C'est ainsi que Thomas More, déjà chancelier d'Angleterre, participe un jour aux vêpres et choque son ami le duc de Norfolk, proche du roi Henri VIII. En effet, revêtu d'un simple surplis de toile, il chante l'office avec le cœur. Norfolk, venu dîner chez lui, demande s'il ne craint pas que le roi soit offensé, que son chancelier se comporte de manière trop humble, comme un clerc de paroisse, compte tenu de sa position à la cour. More lui répond « Nenni, votre grâce ne saurait penser que le roi, votre maître et le mien, puisse s'offenser ou tenir sa charge déshonorée parce que je sers Dieu, son maître. » Avant chaque journée importante, Thomas More tient à se confesser et à recevoir la communion. C'est ce qu'il fait le matin même du jour où il est convoqué par la commission royale, mais il sait aussi que cela risque d'être la dernière fois où il peut vivre l'Eucharistie. Cette privation est certainement l'une des plus grandes épreuves qu'il eut à subir avant son exécution 15 mois plus tard. Au milieu de ses nombreuses charges professionnelles, sociales et familiales, Thomas More trouve toujours le temps nécessaire pour méditer la parole de Dieu, dont il est totalement imprégné, ce qui lui permet de rédiger en prison des textes nourris de centaines de citations de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Père de famille, haut responsable politique, More a choisi de vivre dans le monde sans appartenir au monde. Un exemple illustre cet équilibre difficile à préserver. Voyant que le roi goûtait fort sa présence et sa jovialité et le retenait à la cour, il feint la lassitude et la morosité pour pouvoir rejoindre sa famille. Par sa capacité à vivre les situations les plus diverses, éclairées par l'Évangile, More révèle sa personnalité d'homme d'action et de méditation, comme le montre un court extrait de sa dernière prière écrite en prison. Je cite « Dieu Tout-Puissant, écarte de moi tout penchant de vaine gloire. Donne-moi, bon Seigneur, une disposition humble, modeste, patiente, bonne, sensible et compatissante dans toutes mes œuvres, dans toutes mes paroles et dans toutes mes pensées. » En ce 21e siècle où l'homme a tant de difficultés à vivre dans le silence et l'intériorité, il est réconfortant de voir le développement de la fréquentation de lieux de retraite qui eux-mêmes se multiplient. Prions pour que les hommes et les femmes de notre temps aient le souci de garder cet équilibre indispensable entre leurs engagements dans la cité et leur vie spirituelle. Puissions-nous agir dans le monde avec les mains de Marthe et le cœur de Marie, pour répondre à notre vocation de chrétien, être un fidèle serviteur de la volonté de Dieu en faisant de notre action non pas une agitation, mais une plénitude d'amour.